Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Eh oui, c'est l'heure. 18h40, on défait le monde maintenant dans RTL Soir avec la bande Cyprien Signy, Nerissa Emani, Guillemette Franquet, l'info autrement jusqu'à 19h. Menu Cyprien.
Ce soir, en pleine semaine de la fête du pain, on défait la baguette. Jadis incontournable, elle a une fâcheuse tendance à disparaître. Vous allez découvrir comment la pression sociale influence notre rapport au pain. Au menu également, le jeu hasardeux de qui sera ministre, les bornes à recycler les vieux chewing-gums et l'opéra à la campagne. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
French baguette, all the baguette.
Yeah, French bakers want the beloved boulangerie.
Oui, même sur CNN, à la télé américaine, le rapport des Français à la baguette et au pain interroge. Emblème national, fierté revendiquée. Pourtant, on en consomme, tenez-vous bien, trois fois moins qu'en 1950. Ah oui. Et en cette semaine de la fête du pain, avec l'équipe dont défait le monde, on a donc voulu en savoir plus sur ce désamour latent et essayer de le comprendre.
Pourquoi le pain fait-il de moins en moins recette? Qu'est-ce que ça traduit de notre société? Cette baisse de la consommation est-elle inéluctable?
Pour tenter de percer tous ces mystères, on a contacté Caroline Champion. Elle est consultante et chercheuse. Elle travaille sur la symbolique alimentaire et notamment sur celle du pain. Et si aujourd'hui on en consomme moins, c'est à cause d'une forme de pression sociale qui s'exerce sur la façon dont on s'alimente.
Un discours assez culpabilisant sur le pain depuis quelques années, qui est en fait le résultat de toute cette industrialisation aussi de la production de pain. C'est-à-dire, posez-vous la question de quel pain vous mangez avant de vous demander si vous êtes allergique au gluten ou pas, ou si le pain fait grossir. C'est mieux de manger du pain avec des fibres, alors il faut prendre du pain aux graines, je sais pas trop quoi, ou il faut faire attention à ceci. Enfin, du coup, il y a une sorte de dictature nutritionnelle sur le pain qui pèse sur la simplicité du rapport qu'on peut avoir avec le pain. Vous en donnez un enfant, il se pose pas de questions, vous le voyez qu'il se régale. Genre, tous les enfants aiment se faire des tartines, c'est merveilleux.
Donc nous les grands, on se pose trop de questions sur le pain, c'est ça?
Exactement, inconsciemment, on intellectualise et en plus, on peut faire un parallèle entre notre façon de consommer du pain et l'évolution des rapports sociaux en général. Écoutez, c'est bluffant.
Notre rapport au pain n'est que l'expression de l'évolution de notre rapport à l'alimentation, de notre rapport à l'autre. On perd ce geste qui consiste à partager quelque chose de commun. Le copain, c'est celui avec qui on partage le pain, étymologiquement. Le compagnon, c'est compagnus, c'est celui avec qui on partage le pain. Avec l'individualisation des pratiques alimentaires, l'émergence de régimes très spécifiques, qui fait qu'on va partager le même repas, mais on va pas manger la même chose, parce qu'il y en a un qui va être intolérant à telle chose, l'autre qui sera intolérant à autre chose. Les pratiques alimentaires s'individualisent au maximum, et que ça met aussi en jeu le rapport qu'on a au pain. Il y a une expression qui dit « je ne mange pas de ce pain-là ». Voilà. On en arrive à ça.
Bon, bah c'est fini votre affaire, là. Le pain est en danger.
Eh bien non. Et c'est ça qui est beau, en fait. Parce qu'il y a, dans toutes ces évolutions étonnantes, des nouveautés positives et une symbolique du pain en France qui reste très forte.
On est retourné sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif dans le choix des farines, avec un retour fantasmé à de l'ancestral, mais ce sont des pains qui sont nouveaux. Des pains à la farine de maïs, des pains aux céréales, des pains avec des farines anciennes. On a vu émerger des boulangers stars, ce qui est très nouveau. C'est-à-dire qu'après les cuisiniers, les pâtissiers, c'est aussi au tour des boulangers de passer à la télé, d'être connus, d'ouvrir des grandes boulangeries où on va avoir une offre exclusive avec des créations, où on va pas être que sur la tradition, mais aussi sur l'innovation. Même regardez pendant le confinement le nombre de gens qui ont voulu faire du pain chez eux. Ça traduit bien l'attachement que nous avons au pain, le plaisir du pain et le fait que c'est un aliment indispensable pour tout le monde.
Eh oui, comme Nerissa, ils font du pain chez eux.
Là, ça m'étonne pas, ça.
J'étais sûr.
Moi aussi, mais c'était vraiment pas bon.
Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut aller l'acheter. L'avenir passe donc par une diversification de l'offre de pain, mais aussi, et ça c'est un peu le problème, une augmentation de son prix.
Ça c'est une certitude, puisque les cours du blé explosent record encore aujourd'hui. Mais tant que Nerissa Emani mangera une demi-baguette par jour, les boulangers seront sauvés.
C'est la vie.
RTL. Sous les radars.
Alors, on fait maintenant l'info passée sous les radars.
Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Il existe désormais, tenez-vous bien, des bacs pour recycler vos vieux chewing-gums usagés. Et ça, Guillemette, ça vous a réconcilié avec le chewing-gum.
Oui, figurez-vous que cette initiative, c'est celle d'un confiseur français, Bonsaï. Il a voulu lutter contre le fléau des vieux chewing-gums qui se collent partout. Figurez-vous que c'est quand même la deuxième pollution urbaine après les mégots de cigarettes, soit 100 000 tonnes par an dans le monde. Ah oui. Explication de Valentin Germain, responsable communication de la marque.
Autour de nous, il existe de nombreux chewing-gums à base de plastique. On en retrouve beaucoup sur les trottoirs, dans les chaussées. Et pour lutter contre cette pollution plastique, Bonsaï déploie pour la première fois une solution du recyclage des chewing-gums en plastique, et qui sont en fait des petites poubelles qui sont là pour collecter les chewing-gums et recycler la matière plastique de ces chewing-gums pour pouvoir la réutiliser pour fabriquer de nouveaux produits.
Et ces poubelles, on les trouve dans une dizaine de stations Total Energy d'Île-de-France, comme celle de Grosse-Pierre ou Orléans-Saran. Elles ressemblent à des boîtes roses, toutes rondes. Et alors, une fois que la poubelle est pleine,
on la récupère, on renvoie ça auprès de nos amis britanniques qui traitent la matière première à l'intérieur, donc le plastique, pour pouvoir faire des bottes en plastique, des lunettes de soleil, des cintres, des chaises, des bouteilles, ce que vous voulez, qui soient fabriquées directement à partir des chewing-gums jetés en France et récoltés en France.
Les bornes ont été installées au début du mois, donc il va falloir patienter un peu avant de pouvoir acheter des baskets en semelle de chewing-gums recyclés. Et si cette phase de test est concluante, eh bien, on pourrait voir fleurir tout plein de poubelles roses bonbons dans nos villes.
Vive les poubelles à chewing-gums. Petite pause, on continue de défaire le monde ensuite dans RTL Soir avec une première info pour briller au dîner avec l'histoire des femmes en politique. À tout de suite.
Julien Cellier, Cyprien Sini
ont défait le monde.
L'info pour briller dans On défait le monde.
RTL Soir à vos côtés en cette fin de journée, 18h49 minutes. On défait toujours le monde et voici une première info pour briller au dîner.
Nous avons donc enfin une deuxième femme première ministre. Quoi qu'on en dise, ça mérite d'être souligné. Surtout que l'histoire des femmes dans la vie politique française est quand même très très particulière, Guillemette. Hein.
Et oui, bon, déjà, vous savez que les femmes françaises n'ont eu le droit de vote que tardivement. La date, vous la connaissez,
1944,
bien sûr.
1944,
c'est le premier
44.
Vote.
Ah, c'est le premier vote.
Bon, mais j'avais noté sur la feuille pour être sûr de ne pas oublier, mais 44.
Bon, absolument. Et pourtant, figurez-vous que des femmes sont entrées au gouvernement avant même d'avoir le droit de vote. Ouais. Et même trois femmes d'un coup dans le gouvernement du Front Populaire en 1936. La première, c'était Irène Joliot-Curie, chimiste de renom, fille de Marie Curie, sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique. Suzanne Lacor, institutrice dans un village de Dordogne. Elle a été nommée sous-secrétaire d'État chargée de la protection de l'enfance. Et Cécile Brunschwig, militante féministe, elle a fait ses armes en défendant Alfred Dreyfus et elle a été nommée sous-secrétaire d'État à l'éducation nationale.
Petit cours d'histoire bien nécessaire ce soir. Merci Guillemette.
On défait le monde.
Julien Cellier, Cyprien Sini.
Place au verdict, c'est Nerissa et Mani qui ce soir désigne soit le winner, soit le loser du jour. Bon, c'est un peu la loose ce soir. Hein.
Oui, on peut le dire, on est un peu tous les grands perdants ce soir. La carte de presse en bandoulière, c'est tout le système médiatique qui se fait taper sur les doigts. Car Nerissa, ça y est, depuis hier, on connaît le nom de la première ministre.
Et oui, et maintenant, il faut constituer un gouvernement. Ouais. Du coup, à la télé et à la radio, c'est le retour des experts gouvernement, vous savez, ceux qui savent tout des futurs ministres, à commencer par quand ils seront nommés.
Ça risque de prendre la semaine avec un conseil des ministres jeudi ou vendredi.
On n'a aucune indication, ça peut être demain soir comme ça peut être mercredi matin ou un peu plus tard.
Ça c'est les experts qui ne prennent pas trop de risques.
Ce sont les nôtres à RTL.
Sécurité.
Et en même temps on les comprend, alors qu'il y en a d'autres qui misent plus sur le nombre de ministres.
8 hommes, 8 femmes.
Ce sera un gouvernement resserré, ils seront que 16.
Donc 16 ministres contre les 42 qu'il y a eu précédemment. Mais en même temps,
on n'ose plus parler de gouvernement resserré, promesse qui n'est jamais tenue.
Et sinon, pour les noms, on a des idées?
Pascal Canfin, Jean-Marc Jancovici,
Yael Braun-Pivet, Catherine Vautrin,
Bruno Le Maire, non, Gabriel Attal,
Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Amélie de Montchalin devraient rester au gouvernement à leur poste ou à d'autres postes.
Ouais bon, on va pas trop s'enflammer, surtout que souvenez-vous ce qu'on entendait dès le lendemain de l'élection présidentielle.
Qui voyez-vous comme Premier ministre?
Alors, ça commence à spéculer.
Bah, c'est pas si simple.
Oui, pas évident, parce qu'en trois semaines, on en a eu des pronostics.
Christine Lagarde, Elisabeth Borne, Julien de Normandie,
Richard Ferrand,
Catherine Vautrin,
Mathieu Klein,
François Bayrou, Nathalie Kosciusko-Morizet,
Arnaud Montebourg,
Gérald Darmanin,
François Barouin, Nicole
Notat, Manuel Valls,
Alexis Kohler,
Bernard Cazeneuve,
Bruno Le Maire,
Yannick Jadot,
Emmanuel Faber,
Bertrand Delanoë.
Pas moins de 24 noms différents, ouais, on a compté. Bon, au final, dans le lot, il y avait quand même Elisabeth Borne, la favorite, the favorite,
on
depuis
pas complètement
le début.
Tort.
oui. Donc dans les pronostics des futurs ministres, il y en aura peut-être qui seront vraiment nommés.
Peut-être, enfin, on l'espère en tout cas. Vous êtes fait des amis, j'imagine, le service politique de RTL. Il y a quelques archives qui vont mal passer. Attention quand vous montez à l'étage tout à l'heure. Petite pause dans un instant, nouvelle info pour briller au dîner à Matignon. À tout de suite.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. L'info pour briller dans On défait le monde.
Effectivement, on défait toujours le monde. Bonne fin de journée avec RTL Soir. Pendant 5 minutes encore, on défait ce monde et on vous livre des infos pour briller au dîner. Voici la seconde.
Direction l'hôtel de Matignon, puisque niveau logement de fonction, Elisabeth Borne, c'est pas facile à dire, on n'est pas habitué.
Si, c'est facile.
Elisabeth Borne a touché le gros lot. Matignon, visiblement. Bah c'est pas mal du tout, Néry, ça.
Oui, un hôtel particulier comme résidence, c'est déjà pas mal du tout. Mais le plus impressionnant, c'est quand même le jardin. 3 hectares, ça fait environ 4 terrains de foot. Wow, le plus grand parc privé de
Paris. En plein Paris,
par exemple. Deux fois plus grand que le jardin de l'Élysée. Et dans le jardin de Matignon, il y a une tradition instaurée par Raymond Barre en 1978, celle de faire du jardinage. Chaque premier ministre, à son arrivée, peut planter un arbre dans le jardin. Presque tous se sont prêtés au jeu. Les arbres sont toujours debout à différents endroit du parc. Alors, quel sera celui d'Elisabeth Borne? Sachez en tout cas qu'Edith Cresson avait planté un ginkgo biloba, symbole de sa résistance au poste de première ministre, parce que le ginkgo, c'est l'un des seuls arbres qui a résisté à la bombe atomique au Japon.
Ça, c'est une très très bonne info pour briller au dîner, mais j'ai beaucoup aimé également le cours d'histoire tout à l'heure de Guimet, donc ce soir, ce sera match nul. Un partout, mal au centre.
On défait le monde dans RTL Soir.
Allez, marche ou rêve, tous les soirs, vos jolies idées au bout du fil.
Ce soir, on prend des nouvelles d'une femme qui a choisi de faire vivre sa passion au plus grand nombre, guillemets.
Oui, Elodie H., une chanteuse lyrique, elle était avec nous le 21 septembre. Notre cantatrice s'était lancée dans une mission, faire connaître l'opéra dans les campagnes. Avec un pianiste, elle a parcouru la Sarthe, l'Orne ou encore la Mayenne pour chanter des airs dans des églises rurales. Souvenez-vous.
Je fais des concerts pour faire découvrir les tubes de l'opéra. J'adore faire mon métier dans les grandes villes, mais je trouvais ça un petit peu injuste de ne pas pouvoir le faire partager dans les milieux un peu dits ruraux.
Et Élodie est avec nous ce soir. Bonsoir Élodie.
Bonsoir tout le monde.
Alors où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu poursuivre vos concerts?
Alors oui, j'ai pu poursuivre certains concerts et donc je continue à planifier pour maintenant septembre, puisque en fait là pendant tout le mois de juin, juillet, août, je suis moi-même sollicitée dans un festival à côté de Munich.
Alors l'objectif, on rappelle, c'était de faire un opéra itinérant, d'aller jouer dans les endroits où il n'y a pas forcément d'opéra. Comment ont réagi les populations quand vous alliez dans les villages chanter?
Alors c'était fabuleux parce que ce sont souvent des réactions directes, pures en fait, si vous voulez, parce que ce ne sont pas des personnes qui ont l'habitude d'entendre de l'opéra. C'est toujours des réactions à chaud et j'adore parce qu'en fait c'est quelque chose qui est transparent et les gens, il y a l'émotion qui surgit, en fait on voit sur la tête des gens ce qu'on a en fait provoqué en eux en chantant. Et c'est magique, moi c'est ça que j'adore faire. C'était des gens qui venaient me voir à la fin, qui étaient heureux de découvrir l'opéra, mais c'était vraiment ravi. Donc moi c'est super, c'est ce que je voulais atteindre et c'est ce que j'atteins.
Et justement, est-ce que leur image de la musique classique a changé grâce à vos concerts?
Pour certains, oui. Certains me disent, effectivement, on pensait ça très élitiste, mais en fait, vous en faites quelque chose d'abordable, en fait. Parce qu'évidemment, je choisis un répertoire qui est quand même assez connu pour des oreilles qui ne sont pas habituées à l'opéra.
Comme quoi, par exemple?
Comme par exemple l'air de Castadiva, dans Norma de Bellini, que je suis d'ailleurs en train de faire en ce moment en Allemagne. Ça fait... Castadiva, Castadiva. Vous devez connaître ça parce que ça passe souvent dans les films, dans plein de choses.
Ça y est, ça me parle maintenant.
Alors, est-ce que vous avez d'autres projets à venir pour faire découvrir votre passion?
Alors oui, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est assez drôle parce que c'est un festival à Guttimling, donc à côté de Munich. Et en fait, il se trouve que ça se déroule dans un milieu rural. C'est tout à fait extraordinaire parce qu'en fait, c'est un élevage à la base de chevaux. Et une personne a créé en fait ce festival pour justement inciter les personnes qui connaissent bien le milieu de l'opéra, puisqu'on n'est pas trop loin de Munich, mais aussi pour ceux qui vivent autour ici, où c'est vraiment un milieu rural, de pouvoir leur amener la musique ici. Donc c'est assez drôle, parce que finalement, j'ai été engagée pour ce rôle dans un contexte que moi, je défends aussi. Quoi. Donc c'est assez amusant.
Bah écoutez, merci beaucoup. L'opéra s'invite à la campagne grâce à vous, Élodie. Merci à vous. Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Merci Élodie, au revoir. Et merci à vous les amis d'On défait le monde. On se retrouve demain 18h40 pour de nouvelles aventures dans RTL Soir. À demain.